Je suis avec Stéphane Gouel, bonjour.
Bonjour.
Et on se retrouve au premier étage de la cafétéria parce que vous avez été très sollicité par la télévision. Alors on est très honoré de passer après. C'est pour parler, ah mais c'est un honneur, hein. Mucho gusto, d'Insulaire qui était au Festival de Carnot l'année passée. Et c'était 3 ans après Fragments de Paradis dont les auditeurs et les spectateurs se souviennent. Comment est née l'envie de partir à l'opposé de la Suisse? Est-ce qu'il y a eu d'abord des textes justement du Baron von Roth sur lequel on suit en fait les traces, son idée folle de partir dans l'hémisphère sud tout au bout? Est-ce qu'il y avait un souhait aussi de peut-être de connaître quelque chose de totalement à l'opposé des montagnes suisses, de la tranquillité?
Il y avait aussi une quête de paradis. Le film dont vous parlez, Fragments du paradis, était un film qui questionnait la représentation d'un éventuel paradis dans l'au-delà. De quelle manière est-ce qu'on imagine, on convoque l'imaginaire pour faire face à la mort. Mmh. Et donc, est-ce qu'on imagine ce paradis, cet enfer éventuellement, ou ce rien du tout? Quelle image on a besoin? Et puis, une autre forme de paradis, c'est l'île. C'est, d'ailleurs, souvent, quand on parle du paradis, on dit... Voilà, la mer, les cocotiers, le sable blanc. Et la quintessence de l'idée de l'île déserte, c'est l'île de Robinson Crusoe. Mm-hmm. Et puis, alors, c'est vrai qu'à l'origine de ce projet, il y avait ce désir de continuer à explorer un peu des formes d'utopie. Mm-hmm.
L'identité aussi.
L'identité. Et lorsque j'ai appris, en lisant un ouvrage d'un historien français, que Daniel Defoe, pour écrire son roman Robinson Crusoe, s'était inspiré d'une histoire vraie, true story, celle d'un marin écossais qui avait été abandonné, qui a vécu seul pendant plusieurs années Alexander Selkirk, avait vécu seul sur une île du Pacifique entre 1704 et 1709. Et que cette même île, ensuite, a été colonisée à la fin du 19e siècle par un Suisse, par un fils de bourgeois de Berne, Alfred von Roth, un jeune homme en rupture, un jeune homme qui ne supportait plus la vie, la contrainte, l'enfermement de la société bourgeoise helvétique.
Et le conformisme.
Le conformisme, le protestantisme, son père était pasteur. Un homme qui a essayé de fuir, d'aller le plus loin possible. Alors il s'est engagé, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, comme mercenaire dans l'armée autrichienne, française. Puis après il est parti en Amérique latine. Et finalement, arrivé à Valparaiso, il a entendu parler d'une île encore plus loin dans le Pacifique et que cette île était mise en location par le gouvernement chilien. Et donc, il a immédiatement fait une offre, sans même y avoir mis les pieds, quoi. Et il a gagné l'appel d'offres, on dirait aujourd'hui, et il est parti, il a acheté un petit bateau, et il est parti, après 2 semaines de navigation, il est arrivé dans cette île, et là, il a pu construire, il a pu peut-être être un peu apaisé, voilà, il a pu trouver un endroit où s'enraciner, au bout, comme vous dites, au bout du bout du bout du monde.
Oui, parce que vous précisez pour les auditeurs que c'est à 700 km des côtes chiliennes à peu près.
Voilà, exactement. C'est entre Valparaiso et l'île de Pâques, dans l'océan Pacifique. Et c'est une île microscopique qui fait 40 km carrés, mais dont seuls 10% à peine sont habitables. Donc c'est un tout petit territoire, une île volcanique, qui du coup n'est pas du tout une île...
En activité.
Ouais, c'est pas... Non, les volcans ne sont pas en activité, mais c'est une île qui ne ressemble pas au fantasme de l'île des dépliants touristiques. Il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de sable blanc.
De vahiné.
Il n'y a pas de vahiné, aucune vahiné à l'horizon. Il n'y avait pas d'indigènes sur cette île, contrairement à l'île de Pâques ou à la Polynésie. Donc personne n'habitait là avant que quelques pirates s'y installent ou quelques pêcheurs occasionnels. C'est une île... rude,
austère,
avec une météo compliquée. C'est une île où il y a régulièrement des tremblements de terre.
Sur des zones sismiques, alors.
Zones sismiques, justement. Les volcans n'est plus en activité, mais c'est une île qui est sur une chaîne de volcanique sous-marine. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'activités sismiques. C'est une île avec des falaises, avec pas beaucoup d'eau. Donc c'est une île où il est difficile de vivre et de survivre. Et cet homme, ce Suisse, ce baron bernois, il s'est accroché à ce territoire, il s'est accroché désespérément à ce territoire. Il y a vécu jusqu'à sa mort, il est mort en 1905, Il y a vécu pendant 28 ans. Et il a tout essayé.
Il a même fondé une famille.
Il a fondé une famille. Il a eu 5 garçons et une fille qui malheureusement est décédée. Mais ces 5 garçons ont fait souche. Et aujourd'hui, sur cette île, vivent environ 800 personnes, dont une cinquantaine sont des descendants directs de ce baron bernois. Donc il s'appelle Von Roth, enfin Des Roth. On a transformé le Von en Des. Voilà. Et ce sont des gens qui n'ont pas... Enfin, il n'y a plus de lien véritable avec Berne ou la Suisse.
Donc, si ce n'est le drapeau qu'on voit voler et alors, flotter dans le vent.
Aujourd'hui, ce sont des gens qui se questionnent sur leur identité, justement. Mm. En se questionnant sur leur identité, ils ont redécouvert, en quelque sorte, l'origine suisse de leurs ancêtres. Voilà. Ils n'avaient pas conservé de lien. Ils ne parlent plus le Berntutsch. Enfin, voilà, quoi.
C'est presque mieux pour eux. Hein. Voilà, mais... ça ne m'engage. Oui, j'assume mes propos.
Mais tout d'un coup, ils se questionnent sur leur identité. Et donc, ils réinventent en quelque sorte une sorte de Suisse un peu fantasmée aussi. Alors on déploie des drapeaux, voilà. On sort des petits pavillons avec les cantons suisses, on fête le 1er août, et puis on se réinvente comme ça une espèce d'imagerie suisse, ce point minuscule au milieu de l'océan. Quoi.
Alors moi je rebondis sur vos propos, Stéphane, là où j'ai senti des similitudes entre cette île que je ne connais pas, hein, j'avoue que moi j'ai été dans des îles beaucoup plus touristiques, au sable blanc justement, mais... là où j'ai senti des similitudes, c'est quand à un moment, certaines personnes, bon, j'ai retenu le nom, je crois que c'est l'arrière-petit-fils, hein, Carlos Ibanez, non ? Mais d'autres personnes interviennent également. Et on sent que dès qu'il y a eu le tsunami de 2010, où les continentaux sont venus aider à remettre en état l'île, los plásticos, comme ils les appellent, je vous demanderai pourquoi ultérieurement, on sent qu'il y a aussi la peur que ces gens continentaux s'établissent définitivement. La population a augmenté, en tout cas, depuis le tsunami de 35%. Mmh. Et il y a une sorte de crainte de l'autre qui vient perturber peut-être la tranquillité. Il redoute même un frémissement, un fracassement de leur identité insulaire. Mmh. Et là, ça rappelle certaines pensées qu'il y a dans certaines régions de Suisse.
Alors, totalement. C'est pour ça que cette île, étrangement, elle nous tend un miroir. Il y a un côté métaphorique qui est assez fort. Cette île a vécu en autarcie, en gros, pendant 120 ans. Et puis, en 2010, il y a un tsunami qui a détruit le village. Et le village a été détruit, il y a eu des victimes. Donc, les gens se sont posé la question, est-ce qu'on part, est-ce qu'on quitte l'île ou est-ce qu'on reste et on reconstruit? Bon. Et très vite, les gens ont décidé de rester. Il y a une obstination. Il y a un attachement tellement fort à cette terre, qui est pourtant une terre pas facile, mais enfin, il y a un attachement qui est tellement fort que les gens ont décidé de rester, de reconstruire, de s'acharner, comme leur ancêtre s'était acharné aussi. Et donc, ils ont... Mais pour reconstruire, le gouvernement chilien a décidé qu'il fallait reconstruire selon certaines normes antisismiques, qu'il fallait construire des infrastructures, peut-être un petit hôpital, une école, des bâtiments communaux. Donc, le gouvernement chilien a mis un peu d'argent, enfin, finalement, pas mal d'argent, donc il y a aussi quelques problèmes de détournement et de corruption. Mais enfin, ça a amené, comme vous le disiez tout à l'heure, ça a amené une nouvelle population sur cette île. Des entrepreneurs, des gens qui sont venus pour...
Des continentaux.
Des continentaux. Et c'est vrai que ça a créé un déséquilibre dans cette communauté qui en même temps affirmait... Nous sommes les indigènes, même si ça fait que 3 générations qu'on est installé ici, mais malgré tout, cette terre nous appartient. Et puis, voilà des gens qui viennent un peu profiter avec un peu d'argent facile des conditions de vie qu'on a ici, mais sans avoir eu toute la souffrance préalable. En plus,
et le labeur.
Et le labeur de nos ancêtres. Mmh. Et puis, c'est vrai qu'en plus, y a les ressources sur l'île en termes d'eau, notamment, sont assez limités. Voilà. Il y a 800 personnes qui habitent aujourd'hui dans le seul village de l'île, et on estime, eux-mêmes estiment que l'île pourrait supporter 1000 habitants au maximum. Donc, comment est-ce qu'on... Donc, ça crée des tensions. Et ça crée des tensions, d'une part, avec l'émergence d'un mouvement un peu populiste, on pourrait dire, ou nationaliste. C'est à nous, c'est notre terre, nous sommes les descendants du Suisse qui a fondé cette communauté, tout ça. des gens qui essayent de dire non, attends, il faut intégrer, il faut intégrer, il faut développer les ressources. On dépend de manière absolue du continent, parce qu'il y a un bateau qui vient une fois par mois sur l'île depuis le continent et qui amène plein de nourriture et de biens de première nécessité. Mais plutôt que de se chauffer au mazout, de produire de l'électricité avec du gasoil, on pourrait peut-être développer l'énergie solaire ou éolienne. Enfin, travaillons ensemble à créer une communauté harmonieuse. Donc il y a des gens qui sont aussi dans ce discours-là. Et puis il y a des gens qui sont pour le rejet. Et puis les plasticos, les gens qui viennent du continent, alors ce sont les gens de l'île qui les appellent comme ça, les plasticos, évidemment, il y a une dimension un peu péjorative.
Parce que c'est connotation.
Connotation, c'est ceux qui ont amené le plastique. Hein, ceux qui ont amené,
et donc aussi tout ce qui est moderne, lié à moderne, la consommation.
Exactement. Et ben, les plasticos eux-mêmes arrivent, on dit, mais c'est chez nous ici aussi, on est chilien. C'est un territoire qui fait partie du Chili, donc on a aussi on n'est pas des étrangers. Donc ça crée des tensions qui polarisent cette minuscule communauté, de manière, c'est vrai, vous avez raison, étrangement similaire à des situations qu'on peut vivre pas seulement en Suisse, mais ailleurs.
Le populisme, malheureusement, est en train de faire des émules un peu à travers le monde.
Exactement. Et puis la question de la barrière, comment est-ce qu'on pose des barrières? Alors c'est vrai que les choses sont exacerbées sur un territoire minuscule. Il faut, sur une île comme celle-ci, essayer de se préserver des plantes invasives si on veut pouvoir évidemment protéger les plantes locales. La même chose avec les animaux. L'arrivée des êtres humains crée des problèmes, bien sûr, de déchets. Il n'y a pas de système d'épuration d'eau, il n'y a pas de système de tri des déchets. L'île, le biotope de l'île commence évidemment à être impacté très très fortement par les hommes qui viennent s'y installer. Mais c'est vrai que c'est comme si les choses étaient exacerbées là-bas par rapport aux situations qu'on vit chez nous.
Et bien, je rebondis de nouveau sur vos propos. Vous parlez justement d'une infrastructure, peut-être l'école, parce qu'on voit les gosses, c'est sympa. Ils ont l'air ils apprennent à tirer, par exemple, avec les adultes, assez tôt d'ailleurs. Et ils apprennent aussi à s'occuper des animaux. Enfin, ils vivent assez dans une sorte de quiétude. Évidemment, ça fait penser à Robinson. Mais on les voit pas parler d'école, on les voit pas. Et puis, il y a cette femme, je crois que c'est la compagne ou la femme de l'arrière-petit-fils qui est enceinte et qui va partir sur le continent pour accoucher.
C'est une vie sauvage. Voilà. Alors, c'est aussi le paradoxe, c'est qu'en même temps c'est un endroit très isolé, donc dans lequel la vie est sauvage, donc sauvage dans le sens vraiment de la liberté. Il y a une forme de liberté dans le quotidien des insulaires. C'est vrai que les enfants, ils ont un territoire dans lequel ils peuvent vraiment régner totalement, quoi. Il y a une école, il y a une petite école, mais c'est vrai que ça, tout se joue plutôt au moment de l'adolescence, où s'ils veulent vraiment faire des études, ils doivent partir. Partir pour étudier sur le continent. La même chose avec Magdalena, la femme qui est enceinte. On ne peut plus aujourd'hui accoucher sur l'île parce que, malgré tout, c'est un territoire isolé et sauvage, mais qui dépend d'un État, l'État chilien. Et l'État chilien, justement, impose des règles. Les enfants doivent être scolarisés sur le continent. Les femmes doivent accoucher sur le continent parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sur
en cas de risque.
En cas de risque. Mmh. Et puis c'est compliqué, après il faut aller avec un petit tas, enfin, ça prend trop longtemps pour rallier l'île. Donc on impose aujourd'hui aux femmes le fait de devoir aller accoucher, enfin on impose, c'est pour bien sûr leur sécurité, mais c'est vrai qu'il y a aussi une forme de regret de la part de certaines personnes, on n'a plus cette liberté. Donc on vit dans un territoire qui a les apparences de la liberté et puis qui n'a pas vraiment. C'est pour ça que les gens là-bas maintenant ont une espèce de fantasme autour d'une idée de l'indépendance. Tiens, on va devenir notre propre nation, une microscopique nation. Mais dans la réalité, ils dépendent quasi entièrement du continent et du pays, de la nation chilienne.
Oui, justement, le film s'ouvre sur ce cargo qui pointe vers l'horizon, qui traverse les flots. Je crois qu'on ne peut pas parler de proue pour un cargo, il me semble. Ouais, voilà. Et on comprend au fil du récit que le cargo vient une fois par mois. Alors l'île de Pâques, on sait déjà que ça peut être long quand on y est, parce que c'est une fois par semaine. Mais là, une fois par mois, ceux qui viennent, ne serait-ce que pour un moment pour, comme vous, filmer, ils savent qu'ils doivent attendre minimum un mois pour repartir.
Oui, puis il ne faut pas rater le bateau.
Il faut avoir son billet, surtout.
Il faut avoir son billet, et puis après, il faut évidemment que la météo soit clémente, parce que le bateau ne vient que lorsque les conditions de mer le permettent. Alors, c'est vrai que ce temps qui est rythmé par l'arrivée et le départ du bateau, ça impose un temps qui est complètement différent.
Il n'y a pas la frénésie du monde.
Continent. Il n'y a pas la frénésie du monde. Par contre, il y a tout d'un coup la manne. La manne qui arrive, le bateau arrive, et puis il arrive avec des boîtes de conserve, avec du Coca-Cola, des bières, tout ça, et des cigarettes, et de la viande congelée.
Les mots voilà. De la société.
Voilà, et puis au fil du temps, tout ça disparaît. Donc il y a quelques petites échoppes sur l'île, enfin, des toutes petites épiceries comme ça, qui sont pleines lorsque le bateau est arrivé, puis qui se vident avec le temps. Puis il suffit que la météo, lorsqu'on y était, par exemple, la météo était mauvaise et le bateau avait 10 jours de retard.
À quelle période ?
C'était l'hiver, l'été ici, mais l'hiver là-bas. Mm-hmm.
Et, 2017 ?
Ouais. Et puis tout d'un coup, les choses commencent à manquer, les produits commencent à manquer. Alors jamais le poisson, parce que les eaux sont très poissonneuses autour de l'île.
Ils vivent du produit de la mer.
Voilà, du produit de la mer essentiellement. Mmh. Mais enfin bon, lorsque les cigarettes et la bière et les pommes de terre commencent à manquer, ça marque un temps. Voilà, donc par exemple là-bas, l'événement qui marque le passage du temps, c'est l'arrivée et le départ du bateau. Mmh. C'est pas les mariages ou les enterrements.
On l'a pas vu d'ailleurs.
Il y a un enterrement.
Voilà, ouais. Mais et par contre, ce qu'on voit, c'est comment ils préparent justement les pauvres poulpes qui respirent encore devant la caméra. J'étais toute émue. Ou comment ils ramassent les langoustes, même une langouste gigantesque dont ils nous expliquent que c'est une femelle et qu'ils laissent pas en avoir plein parce que ça se vend bien. Apparemment, ils ont l'air quand même de s'être habitués à cette vie assez quand même rustre, assez difficile.
C'est une communauté qui dépend de son environnement absolument. C'est une communauté qui est totalement qui était en symbiose avec son environnement jusqu'à une rupture récente qui est l'arrivée massive de produits
continentaux.
Ouais. Et c'est vrai que c'est une société qui est en train de subir maintenant une mutation très 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 rapide. Mais sinon, c'est une communauté qui vit en symbiose avec la mer et avec la terre. Donc c'est vrai que les gens sont assez rudes des fois aussi avec leur manière de traiter les
animaux. Ça va avec le contexte géographique.
Voilà, exactement, avec le contexte géographique. Il y a une rudesse. Par contre, il y a un soin, ou il y avait un soin de préserver absolument, notamment les ressources de poissons halieutiques, parce que ils savent très très bien les rythmes de reproduction des langoustes, puisque la langouste représente le gros de leur activité économique. Donc ils savent très bien que pendant 4 mois par année, par exemple, ils pêchent pas pour permettre. Et puis même chose avec les poissons, qui représentent quand même la base de leur alimentation. Donc il y a, on ne parle pas vraiment de respect, mais il y a une forme de...
Ils sont plus en harmonie,
avec
le cycle de la nature.
Exactement, tout à fait. Mais ça reste une vie qui est une vie simple et austère et rude.
Donc ces 2 mois là-bas, ça s'est passé comment ?
Ces 2 mois là-bas, quand on arrive de l'étranger, on est soit même un plastico, on est même un gringo là en l'occurrence, on est au-delà du plastico, puisque alors ils ont des gens qui viennent là-bas de temps à autre, ça reste un endroit où on peut accéder par bateau, mais là ils étaient surpris effectivement de voir des gens qui viennent
filmer
et puis les filmer eux. Alors il y a des équipes qui étaient déjà allées filmer la nature, les poissons, les animaux, tout ça. Mais des gens qui venaient les filmer, eux, là, c'était étrange. On imagine une toute petite communauté. Il y a un seul village, comme je disais, donc les gens
se connaissent
tous. Donc, ils sont toujours au courant de tout ce que fait tout le monde. Voilà. Et donc, il fallait qu'on ait une sorte de sésame, comme ça, pour pouvoir aborder cette communauté. Et puis, alors, notre sésame, il était un peu tout naturel. C'était le fait de dire, on vient de Suisse, et puis on peut vous raconter on a eu accès, parce qu'on a été fouillé un peu dans les archives en Suisse, et donc on a pu ramener des documents qui racontaient un peu la vie du gars, de ce Suisse qui a créé cette communauté, ce baron Alfred von Roth. Et il y a quelques photos, quelques documents, quelques lettres, quelques correspondances qui... pour nous sont peut-être insignifiants, mais qui pour eux sont très très précieux. Quelques images floues, une cousine d'Alfred von Roth était allée, une grande voyageuse, Cécilia von Roth, une Suissesse qui était la première Suissesse à faire le tour du monde, une femme formidable, était allée lui rendre visite en 1902 sur son île, et elle avait un appareil de photo, donc elle avait fait quelques photos de l'île. Ce n'est pas des photos d'une grande qualité, mais pour eux, c'est hyper important pour voir la manière dont la nature s'est développée. Donc, on avait une manière qui nous donnait une forme de légitimité pour rencontrer les gens de cette communauté. En leur disant, ben voilà, nous, on vient d'ailleurs, mais il se trouve qu'on vient du même ailleurs
que l'ancêtre.
Voilà. Donc, à partir de là, ben, il y avait une vraie curiosité, évidemment. Pas seulement de nous envers eux, mais de...
Inversement.
Vers nous. Donc voilà, c'était une vraie rencontre, quoi.
Et puis donc après, ils ont adhéré au projet du film.
Ils ont adhéré au projet du film parce que justement, on allait raconter une partie d'une histoire que eux-mêmes ignoraient de larges proportions. Ils savaient que leur ancêtre était un Suisse qui était venu là, mais après. Pourquoi est-ce que ce type était venu? D'où est-ce qu'il vient? Comment ça se fait que ce type s'était retrouvé au milieu de l'océan Pacifique? Ça, tout ça avait disparu des mémoires. Donc nous, on pouvait venir leur raconter tout ce qui avait précédé. Voilà, par exemple.
Et on comprend que ça faisait partie un peu du mythe fondateur de leur histoire et de leur identité.
Voilà, exactement. Parce que ben, comme il y a cette émergence maintenant d'une espèce de mouvement un peu nationaliste, comme ça, ben, voilà, séparatiste, dire ben, c'est notre... Ben, il faut s'inventer un récit, comme un récit national en quelque sorte, même si c'est toute petite proportion. Mais un récit. Et donc pour eux, ils ont décidé d'incarner ce récit dans la figure un peu mythique de ce baron Alfred von Roth. Donc c'était aussi important qu'on puisse leur donner leur discuter
quelques éléments, quelques
clés. Et ça a permis aussi pour eux de reprendre contact avec l'ambassade suisse de Santiago, par exemple. Cet Alfred von Roth, lui, il était en rupture avec la Suisse. Lui, il voulait pas du tout sur son île cultiver la nostalgie de la Suisse. Il a pas du tout transmis à ses enfants la langue. Il a pas du tout inscrit même ses enfants à l'époque à l'ambassade pour qu'ils puissent conserver la nationalité suisse.
Voilà. Tu sais qu'il rêvait d'un chalet peut-être importé d'Interlaken.
Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il a voulu faire venir un chalet d'Interlaken. Exactement. Mais voilà.
Clé en main,
exactement. Mais il a pas du tout sinon transmis. Voilà. C'était pour lui le chalet. C'était même pas tellement pour ses descendants. Et puis aujourd'hui, alors ce qui est drôle, c'est que maintenant, bah, les gens ils sont preneurs de réexplorer ou recréer cette
renouer
des liens. Donc voilà, qui sait, peut-être un jour des gens de Robinson Crusoe vont venir à Berne.
En tout cas, moi, je dois avouer mon ignorance sur cette île. Amérique latine, oui, mais cette île, non. Et j'ai pas songé y aller en vacances, par exemple, savoir pourquoi. Et quand j'ai cherché un petit peu sur Internet, on trouve que cette île s'appelait avant Terras Buenas, qu'elle a eu divers noms avant d'être rebaptisée Robinson Crusoe. Et que, mais en fait, sur le baron de Roth, là, von Roth, on voit pas grand-chose. Et apparemment, tout se retrouve dans les bibliothèques, si je comprends bien.
Non, il y a effectivement, cette histoire, elle a pas été racontée véritablement. Il n'y a pas eu vraiment de travaux d'historiens qui ont été faits sur la vie de cet homme. Alors, non, il y a très peu de choses. Alors, dans les archives de la bourgeoisie de Berne, il y a une partie de la correspondance qu'Alfred von Roth a adressée à sa famille restée en Suisse. Et maintenant, on est en train de trouver de nouvelles archives liées à la famille de la seconde épouse de son père, qui était une couvreuse, Madame Couvreux de Vevey, une très bonne famille aussi. Mmh. Et dans les archives de cette famille, aux archives cantonales vaudoises aussi, on a trouvé aussi des nouveaux éléments. Donc il y a certainement un récit, là, une biographie à écrire. d'Alfred von Rothe. C'est un homme qui a eu une vie
trépidante.
Trépidante. Un peu comme le véritable Robinson Crusoé dans le roman de Defoe. On se souvient, dans le roman de Defoe, on se souvient que de l'histoire de l'île.
Et de Vendredi.
Et de Vendredi, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que le personnage de Robinson Crusoé, il a tout un parcours avant. Il est enlevé par les Sarrasins, il se retrouve dans les galères. Enfin, il a toute une vie avant de finalement faire naufrage sur son île. Et même chose pour Alfred von Rothe. C'était vraiment un personnage de son époque. Et moi, il me touche ce personnage, même s'il reste très mystérieux aussi, parce que je pense que c'est un rêveur et c'est un utopiste et c'est un obstiné. Voilà. On ne comprend pas très bien qu'est-ce qui le pousse à aller si loin.
Et de quitter une vie qui était agréable.
Et à tout moment, il aurait pu revenir. Mmh. Il aurait pu retrouver cette vie. C'est-à-dire qu'il est sur cette île où il échoue. Il échoue dans ses entreprises. Mmh. Il perd sa fortune. À un moment donné, il a faim. Parce que pendant 2 ou 3 ans, il y a une guerre dans l'océan Pacifique à ce moment-là. Entre l'Argentine, la Bolivie, le Chili, donc il n'y a plus de liaison maritime avec le continent, donc ils se retrouvent, ils sont une trentaine sur cette île à être totalement isolés, voilà, ils n'ont plus rien à manger, et donc c'est un homme qui souffre, il a souffert sur cette île, et il est resté. Et il est resté, alors qu'il aurait pu faire un claquement de doigts et il pouvait revenir à Berne tranquillement dans les salons de la bourgeoisie. Hein. Mais il est resté, c'est un homme qui était blessé, il avait été blessé lors de la guerre entre l'Autriche et la Prusse, donc il était...
Amputé, non ?
Il ne pouvait pas marcher, il avait une jambe qui était... il était bancal. Mais c'est un homme qui a souffert vraiment dans sa chair, et puis atteint, je pense, d'une sorte de folie, mais de folie d'amour pour ce territoire. Parce qu'il l'écrit, je suis amoureux de mon île. Je suis amoureux de mon île, je peux pas partir. Donc voilà, je trouve ça, c'est une figure comme ça qui me bouleverse un peu.
Ah Stéphane, justement, puisque vous le mentionnez, il écrit. D'abord, on a des images, on a une très belle photographie avec vraiment l'horizon, c'est filmé magnifiquement avec des couleurs comme ça. Moi, ça me rappelait certains tableaux justement du 19e. Et puis, petit à petit, il y a un récit qui est déclamé, récité par Mathieu Almaric, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et comment vous avez travaillé sur le choix du texte, justement ? Mm-hmm. Vous avez travaillé, je crois, à quatre mains ?
On a travaillé avec Antoine Jacou, qui est dramaturge, scénariste et romancier, justement à partir des quelques lettres d'Alfred von Rothe, du personnage historique. Et puis, dans ces lettres qu'on a retrouvées aux archives, finalement, il exprime toujours des choses assez objectives. Il écrit à sa famille avec une idée en tête. Il écrit... pas tellement pour dire ses états d'âme. Il écrit beaucoup pour dire « Envoyez-moi de l'argent. J'ai besoin d'argent. Aidez-moi. » Et donc, il a besoin de rassurer pour dire « Là, je vais tenter une nouvelle chose, je vais tenter de faire du fromage. » Donc, je vais faire venir des vaches depuis le continent. Et puis, après, bon. Donc, il a toujours des nouveaux projets. Donc, il a besoin de convaincre sa famille, dire « Là, pour l'instant, ça n'a pas marché, mais le prochain truc, ça va marcher. Donc, envoyez-moi de l'argent et ça va fonctionner. » Sinon, tout va bien. Alors, c'est intéressant ces lettres, mais c'était pour nous un peu court dans la narration. On avait envie d'essayer de comprendre, d'entrer un peu dans la tête de ce personnage. Et puis, en ayant vécu sur cette île, pendant 2 mois, certes, mais enfin, quand même, on a pu ressentir quand même un peu...
L'insularité, en tout cas.
Des fois, moi, j'ai eu l'impression, et Antoine aussi, d'essayer de comprendre un peu de la folie de cet homme. Donc, on a décidé d'écrire un récit à la première personne qui soit un récit entre la réalité et la fiction. Voilà. Comme si c'était un... Cet homme, il est devenu l'île. L'île est devenue lui. Enfin, à un moment donné, c'est comme s'il s'était incarné dans ce rocher au milieu de l'océan. Et donc, on a imaginé un récit où ce serait un peu comme lui, mais en fait, l'île qui s'adresse à ses habitants. Comme si c'était un fantôme, comme ça, qui planait, qui regarde les habitants actuels de l'île.
Ce qui est un peu le cas, d'ailleurs.
Voilà, exactement, avec une forme de bienveillance, mais aussi un peu, avec un regard un peu critique, comme ça. Et donc c'est Antoine Jacou qui a rédigé ce texte et qui est lu effectivement par Mathieu Amalric dans la version française et par Pedro Lenz dans la version allemande.
Et pour la version française, donc Mathieu Amalric s'était imposé rapidement ?
Mathieu Maréric, c'est des hasards, vous voyez, dans les films. Moi, j'adore dans le documentaire, il y a toujours des hasards. On a toujours fait avec des hasards. Il y a des cadeaux, comme ça, il y a des cadeaux.
Des rencontres.
Des rencontres. Voilà. Et on n'a pas besoin, comme dans la fiction, de tout préparer, préméditer, écrire, tout ça. Et lorsqu'on a eu l'idée de cette narration, de cette voix un peu mystérieuse, on s'est dit, mais qui pourrait être le comédien? Est-ce qu'il faut un comédien suisse avec un accent
bernois?
Mais après, bien sûr, c'est
trop des problèmes.
Voilà, non, mais c'est trop littéral, il n'y avait pas besoin. Voilà. Donc, Antoine Jacou avait déjà travaillé avec Mathieu Amalric à une ou deux occasions, et puis on a simplement posé la question. On a dit, est-ce que vous seriez d'accord de prêter votre voix à un petit film suisse? Et il a répondu, alors moi, si c'est du Jacou, aucun problème, très volontiers, on fait ça quand vous voulez. Voilà, donc il a été juste un formidable. Et puis, tout d'un coup, il a posé sa voix. On est allé à Paris pour l'enregistrer. Et pour moi, c'était comme si tout d'un coup, le baron Alfred von Rode prenait vie devant mes yeux, ou devant mes oreilles. Quoi.
C'était sur l'écran, ça met en relief en plus ce territoire.
Voilà, exactement, parce qu'il a cette voix, qui en même temps grave, mais avec un peu fêlée, avec une fragilité. Et c'est vrai que ça posait sur ces paysages, parce que c'est vrai que l'île, elle est austère, mais elle est aussi d'une beauté époustouflante. Les lumières, ils sont souvent très, 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 très belles. Et c'est vrai que la voix...
Un peu expressionniste, par moment.
Voilà, exactement. La voix posée sur la sauvagerie de ces paysages, comme ça, assez vite, ça marchait assez bien. Une sorte de petite révélation.
Et comment revenez-vous de ces deux mois passés là-bas? Vous avez donc construit une maison là-bas.
Je vais ouvrir un hôtel.
L'hôtel, ça sera pas bien vu, hein, je pense.
Ça serait compliqué. Non, j'y suis revenu avec, d'abord avec de la reconnaissance envers la vie, le destin de m'avoir permis de vivre cette expérience, d'avoir... c'est un rêve de gosse. Hein. Un truc du rêve de gosse, évidemment. Enfin, pas tous les gosses. Moi, j'étais très attiré par la littérature, justement. D'aventure, des explorateurs,
des histoires
de pirates, tout ça. Donc, c'est vrai que il y a aussi d'obstination. Voilà, de dire, un jour, j'irai sur cette île. Un jour, j'éprouverai ce que ça veut dire de passer du temps sur une île déserte. Enfin, elle n'est plus déserte, mais... Et donc, j'en suis revenu avec beaucoup de reconnaissance, avec l'envie d'explorer d'autres territoires comme ceux-ci, qui ne sont pas forcément des territoires d'îles dans l'océan, mais aussi des communautés comme ça, isolées.
Un peu en microcosme.
Voilà,
un
microcosme. Enfin, en tout cas, avec l'envie de poursuivre l'exploration de ces formes de projets utopiques, un peu, autour des idées d'utopie et aussi de comment la manière dont se crée une identité, quoi. Ça, des choses.
Et puis toujours avec le fil conducteur de la question identitaire.
Voilà, comment est-ce que les gens se réfléchissent ou s'inventent, souvent une fiction qu'ils servent comme une affirmation de leur identité. Ça m'intéresse beaucoup.
Puis j'imagine de l'extérieur que la temporalité, l'expérience de la temporalité doit être tellement particulière, on revient différent aussi.
Oui, parce que c'est vrai que là-bas, il n'y a pas de temps. Alors, je disais tout à l'heure, il y a ce bateau qui vient une fois par mois ou approximativement toutes les 5-6 semaines, comme ça, qui donne un temps. Ça, c'est le temps du bateau. Il y a le temps du bateau. Et puis, après, il y a le temps de la mer. Parce que les gens sont pêcheurs, donc ils vont travailler quand la mer est bonne, et la mer souvent là-bas est assez houleuse. Donc il n'y a pas les jours de la semaine, il n'y a pas le congé du dimanche.
Ni la connexion d'ailleurs.
Exactement, il n'y a pas la connexion, il n'y a pas le truc, on est, on dépend de machin, d'internet. Donc il y a le temps du travail, et puis il y a le temps du repos, et le temps du repos, c'est souvent le temps... de la fête et
du partage,
voilà, exactement, puisqu'on est vraiment une communauté, donc isolée, donc voilà. Quoi. Bon, c'est vrai que récemment, il y a eu l'arrivée évidemment de la télévision qui a changé un peu les choses, mais donc c'est vrai que le temps est complètement différent. Donc ça aussi, c'est vraiment très, 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 évidemment, ça remet en question après quand on arrive et quand du coup on est pris par la spirale infernale du quotidien.
D'ailleurs, à propos de télévision, on voit à un moment donné, ils sont en train de manger. Et il y a l'écran plasma avec le match de foot derrière.
Évidemment, parce que maintenant, ils ont installé un système, une génératrice qui amène l'électricité sur l'île. Donc évidemment, la première chose que les gens ont acheté, c'était un poste de télé et puis un truc satellite, quoi. Et dans cette ailleurs absolue, eh ben, y a des gens qui ont 500 chaînes de télévision.
Voilà, mieux que chez nous. Et oui. On peut parler projet ou vous devez digérer cette expérience?
Non, on peut toujours parler de projet.
Le Sahara sur les traces d'Isabelle Hébera.
Ouais, ça serait bien. Ouais.
Et c'est aussi un microcosme assez grand quand même.
Oui, tout à fait. Non, là, je suis sur plusieurs projets. Que vous dire? Là, je suis en train de... Ça n'a vraiment rien à voir. Là, c'est plutôt, une commande, mais une commande qui me réjouit beaucoup. Je fais un film sur Jacques Dubochet, le prix Nobel, qu'on filme. C'est une chronique au long cours. Voilà, on le filme depuis le moment où, il y a maintenant une année et trois mois, il a reçu son prix Nobel. Et c'est un peu la manière dont, tout d'un coup... ça change la vie d'un homme.
Les projecteurs.
Les projecteurs, la lumière, voilà. Passer de l'ombre à la lumière. Et c'est comme si, enfin, il le dit lui-même, on lui avait donné une voix, voilà, la possibilité d'être entendu, écouté. Et puis, donc, pour lui, la nécessité de devoir dire quelque chose, d'utiliser cette voix à bon escient. Voilà, c'est un homme qui, tout d'un coup... trouve sa voix. Voilà. Et puis c'est un personnage extraordinairement attachant, drôle, modeste, généreux, avec lequel c'est un plaisir de pouvoir passer beaucoup de temps. Et puis là aussi dans quelque chose qui a, c'est le temps, le temps long. C'est-à-dire que c'est pas juste aller faire une interview rapidement de Jacques Dubochet, qui a été beaucoup vu dans les médias, voilà. Mais c'est la possibilité de voir l'entre-deux aussi, ces moments où tout d'un coup les choses se calment, ces moments où tout d'un coup on a un peu peur du vide, ces moments où d'un coup il est fatigué parce qu'il y a eu trop de choses, trop de sollicité de toutes parts, un homme qui doit de temps en temps aussi faire face à la peur que tout ça s'arrête. Donc ça c'est un film qu'on est en train de tourner maintenant. Et puis sinon j'ai un autre projet qui serait de revisiter un film que j'avais fait il y a 25 ans qui s'appelait Campagne perdue, qui faisait le portrait du village d'où je viens, du village dans le canton de Vaud. Je suis fils d'une famille de paysans et j'avais filmé il y a 25 ans l'arrivée de la génération de mon frère qui prenait les rênes des fermes du village. Et 25 ans plus tard, j'aimerais filmer la manière dont les jeunes, maintenant, la génération suivante, justement là autour de l'identité, se questionnent autour de leur identité d'agriculteur. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour quelqu'un qui a 20 ans ?
Une profession qui est mise à mal.
Qui est mise à mal, de des conditions qui n'ont plus rien à voir, avec plein d'enjeux, évidemment, de la modernité, de la mondialisation, qui leur...
Et des chiffres à fournir.
Des chiffres à fournir, bien sûr, des pressions infernales, beaucoup de gens qui arrêtent, la plupart des gens qui arrêtent, c'est plus un
problème.
Au mieux. Donc voilà, j'aimerais bien là aussi faire un film qui puisse raconter une histoire qui s'est déroulée sur deux générations.
Merci Stéphane.
Merci.
On se réjouit.
Ok, merci beaucoup.